On va passer donc à la troisième. Elles sont là. À la troisième intervention, on va revenir sur le terrain du numérique, mais sur quelque chose qui a été jusque-là peu abordé, puisqu'il s'agit de la présence des bibliothèques de lecture publique sur les réseaux sociaux numériques. Ce sujet d'étude a fait l'objet en fait d'un programme de recherche co-réalisé avec le service livre-lecture du ministère de la Culture et de la Communication et la Bibliothèque publique d'information. Pour présenter les résultats de l'étude, donc, nous recevons Marie-Françoise Audouard, Mathilde Rimaud, qui sont consultantes associées du bureau d'études Axial, et également Louis Viard, qui a participé à l'enquête et qui, lui, est chercheur en sciences de l'information et de la communication et qui est rattaché au LAPSIC, le laboratoire de l'Université Paris 13. Louis Viard, dont Ivalix a parlé tout à l'heure, hein, puisqu'il a soutenu une thèse sur les forums de lecteurs, sur ce genre de choses en ligne. Voilà, à vous la parole.
Merci. Avant de présenter l'étude, je voudrais simplement consacrer 30 secondes à des remerciements. D'abord au service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la Communication et à la BPI qui nous ont confié cette mission fort intéressante, et à la BPI tout particulièrement à Muriel Amar et Christophe Evans qui nous ont aidés, accompagnés pendant tout le cours de cette étude. Également et surtout à toutes les personnes que nous avons rencontrées, interviewées, poursuivies sur les quatre médiathèques ou bibliothèques de Brest, Louise Michel, Metz et Quimperlé, et à la BNF, et à celles qui ont accepté de venir par deux fois, enfin en deux groupes, participer à nos groupes de discussion. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Louis.
Alors, il s'agit d'une étude qui propose d'analyser les interactions engagées par les bibliothèques avec leur public à travers les réseaux sociaux numériques. Alors, dans quelle perspective les bibliothèques se saisissent-elles des réseaux sociaux numériques ? Comment leur présence est-elle pensée et organisée sur ces plateformes? Qu'induisent ces initiatives sur la participation et sur les représentations des publics? Telles sont les questions qui sont placées au cœur de cette étude. Alors pour y répondre, la démarche méthodologique adoptée s'est attachée à obtenir une certaine épaisseur dans les descriptions et une profondeur dans les matériaux recueillis. Et l'idée était d'arriver à comprendre les initiatives dans leur contexte et à faire entendre les spécificités, les difficultés, les contradictions éventuelles que rencontrent les bibliothèques en se confrontant aux réseaux sociaux numériques. Nous avons travaillé à partir d'un corpus de bibliothèques de lecture publique actives sur ces plateformes, dont le choix a été arrêté sur la base un certain nombre de critères. Tout d'abord, on s'est intéressé à des bibliothèques qui développaient une présence active sur les réseaux sociaux numériques. Le fait, en second lieu, d'être une bibliothèque municipale bénéficiant de personnel salarié. Et le troisième critère, c'était l'obtention de l'accord préalable de la bibliothèque pour participer activement à cette étude. En complément à ces critères, la sélection a été attentive à prendre en considération une certaine variété en matière de taille d'établissement, de répartition géographique, mais également de positionnement sur ces plateformes. À l'arrivée, le corpus servant de base de travail à cette étude est constitué des bibliothèques de Brest, de Metz, de Quimperlé et de Louise Michel, donc dans le 20e arrondissement. Donc certains établissements sont des réseaux d'établissements et d'autres non. Il s'agit d'établissements dont la présence sur ces réseaux sociaux numériques a été jugée suffisamment remarquable et développée pour offrir matière à analyse et pour servir d'exemple concret. Et à cet ensemble de structures, nous avons ajouté la Bibliothèque nationale de France, dont le statut particulier et l'implication à la fois forte et originale, notamment à travers Gallica, ont fait un objet d'étude à part entière que nous avons traité en dehors du corpus proprement dit de bibliothèque. Alors la phase d'enquête, quant à elle, Elle s'est déroulée durant l'année 2016. Elle a permis le recueil de plusieurs matériaux empiriques. Et au cœur de la recherche, il y avait vraiment la volonté de croiser les regards, d'articuler les méthodes pour obtenir une complémentarité d'éclairage. Une partie de l'enquête s'est concentrée sur l'analyse des publications des bibliothèques sur les réseaux sociaux, à partir d'un choix de plateforme activement investi par les bibliothèques de notre corpus. En l'occurrence, c'était Facebook, Twitter et YouTube. Nous avons observé très précisément la communication développée sur les réseaux et son impact en matière d'audience et de participation en ligne. Nous sommes également appuyés sur les données statistiques issues des tableaux de bord des réseaux, donc des données qui sont produites par les plateformes elles-mêmes, des données d'audience et d'activité. Alors, je n'aurai pas l'occasion ici de revenir sur ce point, mais il y a effectivement tout un aspect de la recherche qui consistait à développer un regard analytique, voire critique, sur la pertinence, l'intérêt, les limites éventuelles ces matériaux statistiques. Deuxième méthode, pour recueillir des informations sur les bibliothèques du corpus, sur la façon avec laquelle les réseaux sociaux numériques sont investis par ces établissements, nous avons conduit une série d'entretiens auprès des professionnels des bibliothèques en charge de ces questions dans les établissements. Autre point, l'étude vise également à appréhender le public auquel l'offre développée sur les réseaux est destinée. Et là, une phase d'enquête a consisté à mener une série d'entretiens auprès d'usagers d'établissements appartenant à notre corpus et articulés autour de l'utilisation des réseaux dans le cadre de leur pratique des bibliothèques. Et puis, en dernier lieu, nous avons organisé deux focus groupes qui ont permis d'apporter des éclairages complémentaires à travers la réalisation d'exercices, l'animation de débats, visant à faire réfléchir et s'exprimer les participants. Et ici, le choix a été fait d'organiser ces groupes autour de catégories d'acteurs extérieurs aux établissements, mais dont la connaissance et la compréhension des réseaux sociaux numériques étaient susceptibles de nous apporter des éléments, on va dire, contrastifs. Donc on a fait un groupe de discussion avec des booktubeurs, donc des youtubeurs spécialisés dans le domaine du livre, et un deuxième groupe avec des experts du livre, en l'occurrence c'était des professionnels, libraires, éditeurs et des universitaires. Alors à l'arrivée, nous avons quatre regards complémentaires qui vont constituer autant de voies d'entrée dans notre problématique et qui renvoient à ce que la présence des bibliothèques sur les réseaux signifie du point de vue de ce qu'il est possible d'observer depuis les plateformes elles-mêmes et des métriques qui les accompagnent, du point de vue des bibliothécaires qui mettent en place ces initiatives, du point de vue des usagers auxquels cette offre est destinée, et puis du point de vue de deux autres catégories d'acteurs extérieurs aux établissements, comme je vous le disais. Alors on va présenter maintenant les résultats, les principaux résultats. Hein. Évidemment, on va essayer de tenir le temps si possible, d'autant qu'on arrive à la pause déjeuner et que c'est un moment un petit peu stratégique, voire pénible. Du coup, on va revenir sur les principaux points de cette recherche. Alors un premier axe de la recherche, comme je disais, a consisté à étudier les publications diffusées sur les réseaux pour les quatre bibliothèques participant à l'étude. Alors on a tout d'abord étudié la situation sur Facebook et Twitter des bibliothèques sur une période d'un mois, donc ce qui correspondait à plus de 200 publications. Ce qu'il est possible de constater tout d'abord, c'est que les bibliothèques publient un rythme quotidien sur Facebook, en moyenne 1,1 post par jour par exemple, et sur Twitter un peu plus. Deuxième point, les bibliothèques privilégient volontiers des combinaisons de contenus, hein, c'est-à-dire images, textes, liens, etc. Chaque publication comporte en moyenne 2,5 types de contenus. Les publications des bibliothèques surtout s'inscrivent manifestement dans une logique de mise en lien et de rebond en direction d'autres pages web. Les trois quarts des publications qu'on a analysées, qu'il s'agisse de Facebook ou Twitter, vont intégrer au moins un lien cliquable qui va permettre de rebondir à l'intérieur ou à l'extérieur de ce réseau. Et lorsqu'on regarde la destination des liens diffusés, on se rend compte qu'on a une communication qui est d'abord tournée vers la bibliothèque. Les réseaux sociaux permettent de centraliser sur un même compte différentes ressources proposées par l'établissement en renvoyant vers le portail, vers le site internet, vers le blog, vers d'autres comptes sociaux de la bibliothèque. Et puis la deuxième destination privilégiée par ces liens, eh bien, ce sont des acteurs culturels et en particulier des acteurs culturels du territoire sur lequel intervient la bibliothèque. Autre élément important en matière d'information délivrée, il apparaît que les établissements postent d'abord pour communiquer à propos des activités et des événements qu'ils organisent, conférences, ateliers, rencontres, expositions, concours, cycles, etc. En second lieu, les bibliothèques relaient des publications centrées sur les coulisses de la vie en bibliothèque, donc des images de bibliothécaires au travail, de publics participants, de travaux en cours, de préparatifs d'une animation, etc. Et c'est ce qui, du reste, suscite le plus d'intérêt du côté des internautes, c'est-à-dire que le taux d'engagement, le niveau d'interaction tel que mesuré sur ces réseaux, est le plus élevé et sensiblement plus élevé pour ces publications. Et d'ailleurs, les deux types d'informations que je viens d'évoquer sont même combinés ensemble dans de nombreux cas. C'est-à-dire qu'il s'agit pour les établissements d'annoncer ou de communiquer à propos de leurs événements en donnant à voir les objets, les lieux, les personnes en situation, comme on peut l'observer avec les captures d'écran qui viennent juste ici. Les réseaux sociaux fournissent ainsi l'occasion de valoriser, en dehors des murs de l'institution, les multiples animations menées auprès du public et de renvoyer l'image d'un lieu convivial et dynamique où de nombreuses actions se déroulent. Donc là, c'est l'exemple de deux types de publications qui mettent en scène les coulisses de la vie en bibliothèque. Autre observation, d'une manière générale, on observe une redondance significative de la communication entre le compte Twitter et la page Facebook des établissements. C'est-à-dire que parmi les tweets analysés, par exemple, on se rend compte que 6 sur 10 recoupent de manière à peu près identique des posts publiés sur Facebook. Donc on a une communication qui, d'un réseau à l'autre, est pour une bonne partie dupliquée. Ce qui peut répondre aussi à un besoin de la part des usagers, on aura l'occasion de le voir dans la dernière partie, puisque les usagers qu'on a rencontrés ont des usages monoplateformes plutôt. La partie qui n'est pas dupliquée et qui reste finalement plus spécifique à Twitter concerne d'une part la couverture d'événements en direct, donc typiquement le live tweet, et d'autre part la veille professionnelle qui trouve moins d'équivalent en termes de post Facebook. Donc là, j'ai également donné des exemples issus du compte Twitter de Metz. Et puis, nous avons également regardé la situation des chaînes YouTube de ces établissements et nous avons travaillé à partir d'un corpus de plus de 100 vidéos qui représentait plus du quart en fait, des vidéos qui avaient été mises en ligne par ces chaînes. Sur ces chaînes, ce qu'il est possible de dire, c'est que le rythme de publication est aléatoire. Et certains établissements peuvent alterner des périodes plus ou moins intenses en matière d'ajout de nouvelles vidéos. On constate également une forte concentration des vues sur un nombre réduit de vidéos qui vont capter l'essentiel de l'audience. Et on relève ici l'importance du positionnement thématique des vidéos dans les trajectoires de succès sur YouTube. Certaines thématiques sont plus porteuses que d'autres. Par exemple, on avait dans notre corpus une vidéo à propos de l'islam, en l'occurrence une captation vidéo d'une conférence, qui concentrait à elle seule plus de la moitié des vues de l'ensemble des vidéos du corpus. Donc la voie d'entrée vers les contenus semble davantage liée à des considérations d'ordre thématique qu'au canal de diffusion lui-même, la chaîne YouTube. Le travail mené sur la catégorisation des vidéos montre que YouTube permet d'abord de relayer, et là on retrouve des observations similaires avec l'usage de Facebook et Twitter, des contenus liés à des événements culturels, généralement organisés par les événements eux-mêmes, dont ils vont en particulier proposer la captation vidéo. Une autre utilisation répandue d'une chaîne YouTube consiste à proposer des vidéos de présentation, de sélection, d'avis sur des œuvres, et dans un certain nombre de vidéos, qu'on a en particulier observé dans le cas de la chaîne YouTube de Brest, les bibliothécaires vont se mettre en scène en reprenant les codes des YouTubeurs spécialisés dans le commentaire de livres. Alors dans l'ensemble, pour conclure sur ce premier axe de la recherche, nous avons été marqués par la variété des registres adoptés qui empruntent à différents modes de présence web, journalisme, institutions, événementiel, YouTubeurs, etc. Et finalement, au discours institutionnel qui va faire appel à une communication au ton plutôt officiel et à l'imagerie qui lui correspond, affiches, logos, etc., se superpose une communication qui est davantage en adéquation avec l'idée communautaire d'un réseau social qui s'inscrit dans une perspective plus interpersonnelle, donc une communication de personnes, dialogique et horizontale. Et dans ce cadre, la rhétorique développée par les établissements étudiés cultive volontiers une image de proximité, de convivialité, va interpeller les internautes, va recourir à des moyens humoristiques, va mettre en scène également la vie de la bibliothèque au quotidien. Et c'est sans doute là aussi la spécificité des bibliothèques, du moins de celles qu'on a observées. C'est dans ce positionnement à cheval entre des logiques de médiation numérique propres au fonctionnement d'institutions culturelles, d'une part, et des logiques d'animation de communautés issues du web social. Et maintenant, nous allons passer au deuxième axe de notre recherche.
Donc, le chapitre 2 de notre étude se concentre sur la description du fonctionnement et de l'histoire du fonctionnement des médiathèques de notre corpus sur les réseaux sociaux numériques. Donc, on est allé à la rencontre des professionnels de ces médiathèques qui nous ont longuement expliqué leur organisation interne, les problématiques, les objectifs, les difficultés, et mis entre les mains un certain nombre de documents que nous avons pu analyser également quant à leur présence sur les réseaux sociaux. On peut dire en introduction que les terrains qu'on a choisis sont assez variés, assez différents, mais néanmoins se rejoignent sur un certain nombre de points que je vais vous évoquer en suivant, et notamment par le fait que deux d'entre elles sont, comme l'a dit Louis, têtes de réseau, quand les deux autres sont dans une configuration de bibliothèque plus petite, entre guillemets, soit parce que dans le cas de Quimperlé, la commune est relativement modeste, et donc sont plus autonomes dans leur façon de fonctionner. L'ensemble de ces terrains-là est actif de longue date sur les réseaux sociaux, à part Louise Michel, dont l'ouverture récente en 2011 s'est accompagnée immédiatement d'une présence active sur les réseaux sociaux. Pour les autres, ça date en général de 2008-2009 déjà. Aucune d'entre elles n'a de poste non plus entièrement dédié à la gestion des réseaux sociaux. Pour Brest et Metz, elles comptent un certain nombre de personnels dédiés aux questions numériques, mais pas seulement. Quant aux deux autres médiathèques, c'est l'ensemble des bibliothécaires qui sont contributeurs potentiels. L'autre point important à noter également, c'est que au moment de notre étude, un certain nombre des terrains étaient en phase de réflexion, reconstruction, réorganisation interne, liées soit à des changements d'équipe, soit à des évolutions parfois institutionnelles. Dans le cas de Quimperlé, elle intégrait un réseau dans le cadre de la communauté de communes, et qui donc étaient aussi des périodes pour elle de réflexion et de mise en jachère parfois de leur présence sur les réseaux sociaux numériques, en tout cas de mise en perspective. Et du coup, la proposition de participer à cette étude les intéressait d'autant plus que ça leur permettait justement cette prise de recul. Alors, l'élément intéressant de départ, c'est que pour l'ensemble de nos quatre terrains, ce sont des projets qui ont été lancés un peu hors cadre, sans demande d'autorisation préalable, passer entre les mailles du filet pour certaines, soit des services de la collectivité, soit parfois même de la direction de l'établissement elle-même. On commence sans poser trop de questions, et puis on voit après comment ça réagit. On adapte, on fait évoluer, on passe d'un profil à une page quand ça devient nécessaire. Mais en tous les cas, on se lance, comme il a été dit d'ailleurs tout à l'heure, sans filet. De fait, du coup, cette présence n'est pas structurée par des documents de type charte éditoriale de publication ou documents structurants pour l'ensemble des contributeurs. Le contrôle s'opère plutôt a posteriori, c'est-à-dire si vraiment il y a quelque chose qui dérange, soit des cadres de l'établissement, soit les élus ou les services communication de la collectivité, par exemple, on va demander à retirer le post ou le tweet en question, mais ça se fait vraiment a posteriori, et il n'y a pas de regard pesant, il n'y a pas de contraintes particulièrement lourdes à ce niveau-là. Les quatre terrains ont évoqué le fait que ça ne leur semblerait pas possible aujourd'hui de recommencer de la même façon ce type de lancement discret. L'autre point concomitant, c'est que du coup, ce sont des présences ou des stratégies qui ont pris le temps de s'élaborer, de grandir tranquillement et surtout de mettre au cœur la question de l'essai. Ça a été aussi dit lors de l'intervention sur le contexte numérique. L'exploration, le laboratoire, on teste des plateformes, on essaye, on s'autorise à rater, à ce qu'il y ait des échecs, à laisser tomber des plateformes. Ce n'est pas grave, il faut de l'adaptabilité, de la souplesse. c'est le maître mot du fonctionnement sur les réseaux sociaux. Autre point concordant, les moyens disponibles pour mettre en œuvre cette présence sur les réseaux sociaux sont assez légers en termes matériels, parfois même compliqués quand on a une connexion Wi-Fi qui n'est pas suffisante ou qu'on n'a pas les appareils photo nécessaires aux prises de vue et qu'on est obligé d'utiliser son propre téléphone pour faire les captations par exemple. Mais également en termes de moyens humains, parce que même lorsque les fiches de poste ou l'organisation interne prend en compte la question de la contribution sur les réseaux sociaux, cela reste souvent insuffisant par rapport aux besoins nécessaires au montage vidéo, par exemple pour les bibliothèques qui ont pu s'essayer à du contenu vidéo sur YouTube. Et à plus ou moins long terme, ça a pu générer aussi une forme d'épuisement, d'essoufflement des équipes importantes. Autre point intéressant, jusqu'à présent, au sein de ces équipes-là, la formation, parce que ça mobilise évidemment des compétences nouvelles, différentes, la formation s'est faite essentiellement en auto-formation ou en transmission de compétences entre collègues, de façon plus ou moins simple, plus ou moins réussie, plus ou moins acceptée par les autres collègues. Ce n'est pas toujours la forme la plus simple d'accès. La mobilisation des équipes est justement l'un des points centraux et un petit peu différente en fonction de la bibliothèque qui parle. Du côté de Quimperlé et Louise Michel, on va ressentir que les réseaux sociaux numériques sont un élément constitutif de la dynamique d'équipe et de la mobilisation de l'ensemble des agents dans le projet d'établissement. La visibilité immédiate donnée non pas aux agents parce qu'ils ne postent pas forcément en nom propre, mais en tout cas à l'établissement et puis chaque agent sachant ce qu'il a posté lui-même, quand même avoir un retour immédiat sur ce qu'on a pu faire en lien avec les usagers est extrêmement gratifiant et a pu motiver des agents qui au départ se montraient rétifs ou peu enclins à poster régulièrement. À l'inverse, ou en tout cas de façon un petit peu différente, les deux bibliothèques de Metz et Brest ont constitué leur présence sur les réseaux sociaux numériques autour de petites équipes très mobilisées au départ, pionnières, motivées, cherchant des idées un peu différentes, et qui ont parfois réussi à mobiliser de façon plus large que ce petit noyau de départ leurs collègues dans l'aventure, mais qui ont pu ressentir une forme d'essoufflement, de fatigue liée au fait que c'est très chronophage de s'occuper de ces réseaux sociaux. Et un autre point également, c'est qu'elles sont tête de réseau et que du coup, d'aller récolter l'information pour l'ensemble des médiathèques du réseau peut s'avérer parfois compliqué à animer. Donc elles sont toutes les deux quelque part au bout d'une forme de première étape de processus, dans une forme de réflexion sur une formalisation un peu différente de l'organisation interne pour la production des contenus. L'ensemble des médiathèques publie plutôt au fil de l'eau. Il n'y a pas de cadre strict pour les contenus, ni d'objectifs vraiment posés, si ce n'est cibler ce qui marche, essayer de provoquer des réactions du public. La complémentarité des plateformes est, comme on l'a vu à travers les métriques, à questionner. Facebook est vraiment généralement au centre de la démarche de la présence sur les réseaux sociaux. Twitter, à part dans le cas de Metz, est effectivement plutôt un rebond de l'information originalement produite pour Facebook. Et YouTube fonctionne plus comme un hébergement de vidéos dont la force de diffusion se passe plutôt par le Facebook notamment. Donc peu de stratégies différenciantes, mais par contre une variété de contenus postés qui reflète la variété des activités des médiathèques de façon générale. L'objectif en direction des publics est vraiment de susciter les réactions, et souvent le peu de commentaires des usagers suscite une grande déception et peut être là aussi une source d'essoufflement des équipes. En gros, on a le sentiment qu'il y a peu de connaissances en fait, des usagers par le biais des réseaux sociaux. Ça ne sert pas d'outil aujourd'hui de connaissance des usagers. Mais en revanche, les bibliothécaires expriment que cela leur permet d'investir en fait, un double territoire. Un premier territoire qui correspondrait d'une certaine façon à une zone de chalandise, si je puis m'autoriser ce terme-là, naturelle, qui va concerner évidemment les usagers de la médiathèque, les habitants de la commune, mais aussi les collègues qui peuvent être un peu plus réticents et les élus ou les services des collectivités, parce que du coup, les réseaux sociaux deviennent un outil de communication interne important. Et puis une deuxième zone qui va être une zone peut-être qu'on pourrait appeler de notoriété, au-delà des frontières naturelles de la commune, qui peut dresser une sorte de cartographie virtuelle de l'impact de la médiathèque et au-delà de la médiathèque peut-être même de la commune, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un lien affectif avec leur commune peuvent être en lien avec la bibliothèque comme le signe, enfin l'incarnation en fait de ce lieu pour eux, même s'ils habitent très loin. Et cette zone de notoriété s'étend également aux professionnels, bibliothécaires, vous tous dans la salle qui suivez les autres comptes des bibliothèques partout en France et qui constituez cette zone de notoriété plus large pour chaque bibliothèque. Les objectifs que les bibliothécaires assignent aux réseaux sociaux numériques, enfin du moins à la présence de leur établissement sur ces réseaux sociaux, il est d'abord l'incarnation de cette identité qui est tout à fait en continuum entre le virtuel et le réel. Il s'agit bien de l'émanation de la même identité et qui vise principalement à dépoussiérer l'image, à montrer la richesse, la modernité de l'offre en médiathèque, aussi bien sur les contenus que sur les animations proposées. Et au-delà de ça, il peut s'agir aussi d'aller jusqu'à créer une marque, une identité en tant que telle. Les exemples choisis, que ce soit Metz avec l'avatar de Miss Media, Louise Michel avec Louise et Michel, et même la marque Thuner de Brest au sein des médiathèques de la ville de Brest, montrent qu'il s'agit bien de trouver un positionnement et d'incarner de façon forte cette identité sur les réseaux sociaux, qui dès lors prennent vraiment un nombre de fonctions importantes, fonctions relations pour susciter les réactions des usagers, se positionner là où sont les usagers, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et tâcher d'augmenter l'audience, représenter et désinstitutionnaliser la bibliothèque, et ce rôle de partage d'expérience entre collègues qui en fait un lieu vraiment en tant que tel aussi avec cette vocation précise. Du coup, cet outil d'échange qui permet quelque part de faire bibliothèque, on s'est demandé si c'était partagé, ces objectifs-là étaient partagés par les usagers des réseaux sociaux. Donc les entretiens menés, les 19 entretiens que nous avons pu mener avec des usagers des bibliothèques concernées, nous ont permis, alors parmi ces 19-là, il y a 3 usagers bibliothécaires que nous avons traités un petit peu à part parce qu'ils ont une approche qui est, vous le verrez, un peu différente de celle d'usagers classiques, on va dire. Dans le rapport final, nous avons dressé 5 portraits d'usagers qui permettent de venir illustrer de façon profonde le lien que ces usagers peuvent avoir avec leur médiathèque et leur médiathèque sur les réseaux sociaux. Alors, premier point important, le corpus que nous avons rassemblé a été rassemblé principalement par l'intermédiaire des bibliothécaires qui sont allés à la pêche des usagers pour répondre aux questionnaires. Et de fait, cela nous a constitué un corpus d'usagers extrêmement investis et en proximité avec leur médiathèque. Ils ont une pratique extrêmement régulière et de longue date. Ils ont un lien affectif très fort avec leur médiathèque, qui est un lieu central de leur vie personnelle, voire même, on a pu aller jusqu'à dire qu'elle faisait partie quelque part de leur sphère intime. Elle peut devenir un lieu de vie, de travail. Certains ont leur bureau, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Un des usagers interrogés travaille tous les jours à la bibliothèque. Les bibliothécaires, du coup, ont une place centrale. Ils sont sollicités pour du conseil régulièrement et perçus comme des ressources, voire même donnent lieu à des liens amicaux qui se tissent au fur et à mesure des rencontres et deviennent parfois extra-bibliothèques. Le mot « échange » est le mot qui revient le plus fréquemment lorsqu'ils décrivent pour eux ce que représente la médiathèque dans leur vie. Donc, fortement investis, des quasi-bibliothécaires, comme nous nous sommes autorisés à les appeler, quel est l'intérêt pour eux, alors qu'ils ont, ce lien très fort à leur bibliothèque, de la suivre sur les réseaux sociaux? Alors d'abord, ils la suivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont une pratique des réseaux sociaux qui est un réflexe acquis. Ils sont usagers aguerris, ils ont stabilisé leur usage des réseaux sociaux depuis de nombreuses années, ont un usage multicanal parce qu'ils sont souvent connectés sur plusieurs plateformes et néanmoins privilégient l'une ou l'autre de ces plateformes pour le suivi quotidien des pages qui les intéressent. Ils ont un usage qui s'est aussi resserré souvent, qui est parti d'un usage assez intime, centré sur la famille, pour s'élargir petit à petit vers un usage parfois professionnel. Du coup, pour ces usagers-là des réseaux sociaux, s'abonner à la page de la bibliothèque est une évidence. On ne se pose même pas la question, on ne sait même plus comment y arriver, mais on va la suivre parce qu'on suit d'autres pages culturelles. Mais pour certains usagers qui ne suivent pas d'autres pages culturelles et qui ne suivent que celles de la médiathèque, parce que justement, il y a un lien d'intimité suffisamment fort pour justifier ce lien. Néanmoins, les réseaux sociaux restent un canal d'information parmi d'autres. On va principalement avoir l'information concernant les animations ou les événements organisés par la bibliothèque via les bibliothécaires ou l'affichage sur place. Ça reste pratique, mais ce n'est pas l'outil principal ou privilégié d'information. La redondance d'information reste une nécessité. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de se rendre compte au fil des discussions que très peu d'entre eux avaient une connaissance de l'ensemble des plateformes investies par la médiathèque suivie. C'est-à-dire qu'ils connaissaient que la plateforme qui est leur plateforme privilégiée. Du coup, pourquoi, malgré le fait que ça soit un canal parmi d'autres d'informations, continuent-ils de suivre dans leur fil d'actualité les postes des médiathèques ? Eh bien, parce que, d'abord, ça reste un outil de relation. Dans les signes visibles de cette relation, les plus évidents et ceux qui sont d'ailleurs les plus vérifiés et observés par les bibliothécaires sont les contributions, les retours, les partages, les likes, les commentaires. Et bien, comme pour leur retour sur les réseaux sociaux des bibliothèques est tout à fait le même que celui qu'ils ont de façon globale sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire est relativement faible. Il y a peu de contributions. Certains disent également que finalement, il y a peu de postes des bibliothécaires qui justifient aussi une réaction. Et en revanche, les contributions, pardon, le repas approche et je commence à bafouiller, jouent un vrai rôle de rappel qui favorise quand même la participation de ces usagers aux animations proposées par la médiathèque. Donc en ce sens-là, il y a un impact direct quand même de l'information passée par les réseaux sociaux. Mais le plus frappant est l'approfondissement des liens invisibles que cela permet. Les réseaux sociaux permettent de garder le contact quand on est dans une période de vie où on va être en intermittence, par exemple, de visite et d'assiduité à la médiathèque ou qu'on est en distance. On peut suivre ce qui se passe quand même. On continue d'appartenir à une certaine communauté des usagers de la médiathèque. On fait corps avec la médiathèque par ce biais-là. Très prosaïquement aussi, ça permet une présence à distance, soit qu'on puisse être présent à un événement et qu'on le suive via un live tweet ou un direct sur Facebook, ou qu'on se tienne informé de ce qui peut se passer dans les médiathèques d'un réseau, médiathèques dans lesquelles on n'irait pas forcément spontanément, mais on sait qu'on fait partie d'un réseau, donc on va se tenir informé de ce qui se passe ailleurs, et pourquoi pas, une fois ou l'autre, aller voir ce qui se passe dans une autre médiathèque. L'impact le plus évident est le fait que ça facilite la relation avec les bibliothécaires. Mettre un nom, oser aller parler aux bibliothécaires parce qu'on les a vus sur Facebook ou parce qu'ils ont répondu à un commentaire. Il y a une vraie transformation de la relation que l'ensemble des usagers a pu témoigner. D'où l'importance, effectivement, des contenus liés aux coulisses et aux métiers des bibliothèques. Et il s'agit vraiment de pouvoir entrer dans ce qui fait votre quotidien, dans ce qui va donner de la chair aux personnes qu'ils aperçoivent, sinon, au sein de la médiathèque. Certains évoquent aussi leur envie de renforcer l'interaction, que les réseaux sociaux soient un outil pour, par exemple, réserver en ligne ou pouvoir discuter directement. Mais ça reste relativement marginal. En revanche, les bibliothécaires sont vraiment placés au cœur de la relation et pas les usagers. Il n'y a pas de relation entre usagers par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour l'instant. Donc contrairement au reste des supports de communication développés par les médiathèques, les réseaux sociaux numériques sont le seul canal qui permettent de propulser des contenus liés aux personnes et aux métiers. On a jusqu'à présent été attentif à la circulation d'une information de la bibliothèque aux usagers, les usagers revenant vers la bibliothèque éventuellement. Mais le rôle des réseaux sociaux, c'est bien évidemment cette dissémination à l'extérieur. Alors, est-ce que ça joue ce rôle d'essaimage au-delà de renforcement d'un lien entre un bibliothécaire et son usager? Les usagers interrogés se reconnaissent clairement dans l'image créée par la médiathèque sur les réseaux sociaux, même s'ils ne retrouvent pas tous les contenus qu'ils viennent, enfin tous les usages qu'ils ont en réel, et notamment le manque de contenu sur les, de publications sur les contenus a été souvent souligné. Le dynamisme de la médiathèque, voilà ce qu'ils repèrent et ce en quoi ils se reconnaissent. L'humour, la variété des tons, la légèreté, la désinstitutionnalisation sont des points extrêmement importants pour eux pour pouvoir se reconnaître dans les publications de la médiathèque. Donc, ils sont acteurs de cette dissémination à travers le partage qu'ils peuvent en faire, par exemple, mais ils entendent le rôle des réseaux sociaux pour les bibliothèques, se mettant un peu à la place de bibliothécaires dans ces avis-là, comme en fait un outil qui permet de montrer aux autres, les autres étant entendus comme les gens moins convaincus qu'eux, de la richesse de ce qui est proposé en bibliothèque. Une bibliothèque, ce n'est pas ce que vous croyez. Et du coup, moi-même, je suis légitimée dans le fait d'être usager de la bibliothèque, puisque je vous montre au passage combien c'est riche et surprenant. Donc on sort de l'image vieillotte, et au-delà même, on peut en venir à défendre l'existence même des bibliothèques, leur pérennité. On participe quelque part, on est militant de la prise de conscience de l'importance du maintien d'établissements sur les territoires. Donc on voit là que l'investissement de ces usagers-là est quand même très particulier. On est vraiment dans un profil d'usager quasi bibliothécaire qui s'investit et parfois se font le porte-parole même des bibliothécaires en tant que tels. Alors ça a été intéressant du coup de voir en quoi cette parole était concomitante avec celle des bibliothécaires usagers des réseaux sociaux, donc ceux qui observent les comptes d'autres bibliothèques. Donc trois usagers bibliothécaires, tous les trois n'ayant pas dans leur propre médiathèque mis en place de réseaux sociaux numérique, et donc très actifs en veille parce que ça leur permet de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui en tant que bibliothécaire dans ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, trouver des exemples pour leur propre fil Twitter ou les formations qu'ils peuvent donner, et quelque part une veille qui est dans l'ADN même des bibliothécaires. Ces bibliothécaires-là réagissent au sein de groupes professionnels, au sein dans Facebook par exemple, mais également sur ses comptes sociaux de bibliothécaires, en essayant de prendre une posture d'usager, en essayant de mettre à distance leur regard professionnel pour se remettre le plus près possible des réactions spontanées. Les différences principales sont liées au fait que les bibliothécaires vont rêver de faire des réseaux sociaux un lieu de médiation et de dialogue entre les usagers eux-mêmes.
Bon, je pense que, étant donné les contraintes de temps, on a été un peu long, mais notamment sur les publics, mais je pense que c'est la partie qui est la plus intéressante. Donc, je vais aller extrêmement rapidement sur la dernière partie, à savoir les groupes de discussion et la BNF, pour des raisons diamétralement opposées. Les groupes de discussion étaient là pour apporter un éclairage complémentaires. Je vais juste rappeler les points principaux qui sont souvent des points de convergence. Et quant à la BNF, c'était pour profiter de son expérience de grande sœur pionnière pour éventuellement donner les prémices d'un guide de bonnes pratiques, en tous les cas d'identification des bonnes pratiques. Sur la convergence de vues de ces deux groupes de discussion qui étaient, Louis l'a rappelé en introduction, qui étaient très différents, portent à la fois de manière assez caractéristique sur la définition des réseaux sociaux numériques comme un lieu, d'abord, où l'on retrouve le terme d'échange qui a été prononcé tout au long de cette étude. De ce point de vue-là, il y a une convergence et avec les bibliothécaires et avec les publics. C'est un lieu d'échange, de partage, puis de promotion et de prescription, et enfin de travail et de formation. Et les termes arrivent dans cet ordre-là. La seule nuance qu'apporte le groupe des booktubeurs, je devrais dire les booktubeuses, mais il y avait un homme. Donc les règles d'accord grammatical du français m'obligent à dire les booktubeurs. C'était plus d'être moins dans la caractérisation d'un lieu que d'une nouvelle manière d'être, d'une nouvelle manière de communiquer et de créer à la recherche d'une nouvelle communauté, voire de culture nouvelle, voire d'un langage nouveau avec les codes, j'y reviendrai dans deux minutes, et les quatre fonctions qui apparaissaient désirables aux yeux de ces non-bibliothécaires, hein, pour des réseaux sociaux numériques de bibliothèque, étaient de manière assez paradoxale que ces réseaux sociaux soient d'abord un outil de prescription et de recrutement. Je dis paradoxal parce que ça n'est pas l'utilisation qui est apparue en premier chez les bibliothécaires. Or, c'est pour un public de non-bibliothécaires, c'est la première fonction qui paraît évidente. La meilleure connaissance des usagers, là aussi, autre paradoxe. Le plus souvent, les bibliothécaires utilisent les RSN pour se faire connaître des usagers avant même de connaître... Enfin, la réalité, c'est qu'ils ne connaissent pas très, très bien leurs usagers. Et enfin, la création d'un lieu de vie, avec le paradoxe qui a été cité par Pascal Plantard, qui est que avec le désir d'ouvrir de l'ouverture au monde va de pair avec au contraire un resserrement sur une communauté et sur des communautés de niche très spécifiques et du territoire. Et enfin, ça c'est le rêve de tous, un lieu de création. Ce qui est important également à signaler, c'est que dans cette vue de l'usage des réseaux sociaux par les bibliothèques, la prééminence de la forme plus que du fond. Alors certes, et Louis l'avait signalé, il y a des thèmes qui reviennent, et notamment le thème des coulisses, la découverte du métier, et les jeux et concours, enfin tous les appels au clic, pour aller vite, qui existent sur Internet. Mais en dehors de ces thèmes fédérateurs, c'est plus la forme et c'est l'utilisation de codes spécifiques qui est demandé aux réseaux sociaux, c'est-à-dire le ton familier et direct, l'humour, des images animées de préférence, le plébiscite des gifs et toute une sorte de mise en scène de l'authenticité. C'est-à-dire que à travers ces codes de l'Internet, l'idée est de, encore une fois, de dépoussiérer, le terme est revenu sempiternellement, dépoussiérer l'image de la bibliothèque. Sans aller jusqu'à un guide et un vade-mecum des bonnes pratiques, quelques recommandations ont fédéré ces groupes. Dessiner une stratégie, c'est-à-dire choisir ses publics et définir ses objectifs. Est-ce que c'est une réflexion préalable pour eux avant le choix des réseaux sociaux numériques ? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'adresse à ses propres usagers ou est-ce qu'on en cherche de nouveaux ? Et dans cette adaptation, à partir de cette stratégie, l'adaptation des publications, de s'adapter plus exactement aux spécificités des publications. Souvent, Facebook apparaît pour le grand public, Twitter plus pour le public professionnel. Et dans ces cas-là, d'utiliser les codes spécifiques à chaque réseau. Privilégier l'échange et la connaissance de ses publics. Bon, ça, je n'y reviens pas, on l'a beaucoup abordé. Et également, de mobiliser l'équipe de manière progressive. Là aussi, avec un lien entre l'activité sur les réseaux sociaux et la bibliothèque physique. Ça, c'est très important. Il y a en fait, les deux se nourrissent l'un l'autre. L'éclairage apporté par Gallica. Gallica, l'hypothèse de départ de l'étude, c'était de se dire « on s'arrête ». Voilà, l'hypothèse est de dire qu'on s'arrête et que la conclusion, ben, vous la trouverez dans l'étude. Voilà. C'est à vous de faire, en fait, de rédiger la conclusion. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Non, à nouveau, je suis vraiment désolé. On va dire en plus que je censure la BNF, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, si vous voulez poser une question sur la BNF, vous êtes les bienvenus. Peut-être une seule question, puisqu'il va falloir évidemment qu'on reprenne. Pas au-delà de 14h10, hein. Oui.
Oui, bonjour, j'avais une question à vous poser sur les usagers, parce que vous avez expliqué que l'échantillon avait été constitué à partir de gens qui étaient plutôt dans un lien affectif avec les bibliothèques.
Oui.
Pourquoi ne pas avoir ouvert davantage l'échantillon à un public plus diversifié, avec des gens qui ont une proximité diverse de la bibliothèque, et notamment Est-ce que les réseaux, on peut faire que les réseaux sociaux peuvent être un peu un moyen, un moteur pour rapprocher les usagers des bibliothèques, mais effectivement, là, vous avez déjà traité un public conquis. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un public un peu plus diversifié. Enfin, me semble-t-il, mais peut-être que j'ai mal compris votre propos.
Le public diversifié était représenté par les groupes de discussion. Là, c'était les usagers
experts,
des bibliothèques.
C'était des experts youtubeurs et puis des experts en librairie.
Oui, mais là, c'était pas un public. Les publics étaient les publics des bibliothèques. C'était cela qu'on cherchait.
Et puis, c'était une étude qualitative qui ne nous permettait pas d'aller au-delà d'un certain nombre d'entretiens. Et du coup, le recrutement s'est fait par l'intermédiaire des bibliothécaires. Et parfois, elles ont eu du mal en fait, à recruter. Et du coup, elles sont allées chercher aussi des usagers qu'elles connaissaient un peu mieux que les autres. Ce qui fait qu'on a effectivement une typologie un peu précise d'usagers, mais du coup, qui donne un éclairage cohérent aussi sur ce corpus-là. Donc effectivement, il n'est pas représentatif de l'ensemble des usagers d'une bibliothèque, mais sur ce corpus-là et dans le cadre d'une analyse vraiment qualitative du lien que cela permet. En même temps, c'était intéressant justement, parce qu'on pouvait se dire, et c'est l'hypothèse qu'on avait posée, pourquoi ils viennent sur les réseaux sociaux alors qu'en fait ce sont déjà des gens conquis qui ont toute l'information et qui n'ont pas besoin a priori, enfin en tout cas on pourrait le postuler, de ce lien supplémentaire. Et là, ce qu'on découvre c'est que en fait si ça vient alimenter encore un peu plus en profondeur ce lien.
Alors l'étude sera rendue publique bientôt. Là vous avez une première en ce qui concerne justement la première présentation des résultats de l'étude. Elle sera sans doute pour la synthèse disponible en ligne et pour la synthèse longue publiée sans doute aux presses de l'ENSIB et sur Open Book Edition, mais pas tout de suite. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup, encore une fois désolé, merci à tous. On se retrouve donc cet après-midi vers 14h10 pour la reprise de cette journée d'études. Merci.